il y avait des sœurs. Elles étaient dans leur cloître et elles ne fréquentaient pas beaucoup Sainte-Croix. De temps en temps, elles venaient chercher leur lait.
Cet ancien monastère, il est à l'entrée du Diwa et il est positionné sur un éperon, sur une crête. Donc il domine un peu, il regarde un peu les gens qui arrivent de la vallée de la Drôme. On souhaitait que ce lieu soit un lieu ressource.
Tout le monde nous reconnaît. Quand on rentre dans la cour, il n'y a rien à faire. Quoi. On est tiré vers le haut sans même le vouloir. Tout le monde le dit. Tout le monde nous reconnaît.
On nous faisait sortir l'hiver à 4h, au lieu de 4h30, ceux de Toul et ceux de Palerme. Parce que comme on avait beaucoup de courses, du chemin à faire, qu'on arrive avant la grande nuit.
Balade sonore.
Eh oui, tout ça, c'est bien vieux.
Avant d'entrer dans le monastère, installez-vous pour l'écoute sur la place de l'église-temple. La balade commence face à la montagne de Quin. Située au confluent de la Drôme et de la Sûre, elle porte encore les vestiges de trois puissantes fortifications médiévales. La date de création du monastère n'est pas connue avec précision, mais remonte probablement au XIe siècle. Les comtes de Valentinois en furent certainement les fondateurs, au pied du château de Quin qui leur appartenait. Ils en auraient fait don aux chanoines de Saint-Augustin. Le village de Sainte-Croix s'est installé sur son site actuel lors de la création du monastère, le long de la rue qui mène sur l'ancien chemin de Beaufort.
Je récupère l'eau parce qu'elle est tellement chère.
Au numéro 200 de la rue de Beaufort, vit Solange Grangeron. Femme de viticulteur, elle est originaire de Pontet.
Qu'est-ce que vous savez des tours, la montagne de Quin? Qu'est-ce que vous savez du château qu'il y avait là?
Mais ça, je ne sais pas trop alors. Parce que. Alors, on ne s'occupait pas trop de la montagne. Maintenant, je me dis si on avait un peu plus pris du temps, au lieu de tant travailler. Vous savez, ça entraîne tout, hein. Oui.
On ne s'intéressait pas beaucoup à l'histoire à l'époque.
Non. Ouais. On aurait pas assez pour des cinglés.
Et le monastère, qu'est-ce qui se passait quand vous êtes arrivé au monastère? Il y avait l'école à un moment?
Ah oui, les catholiques.
Oui. Les enfants de familles protestantes, ils allaient plutôt à l'école communale, c'est ça?
Oui. Il y en avait peut-être des catholiques qui y allaient, mais encore, je ne sais pas.
C'était un peu séparé à l'époque?
Un peu beaucoup. C'était comme ça. La vie a bien changé. Quand on voit tout ce qui s'y fait.
Vous fréquentiez le temple?
Oui.
Oui.
Il y avait un pasteur ici. Il n'y avait pas tous les dimanches, mais presque. C'est-à-dire que dans les maisons, il y avait 5 ou 6 personnes. Hein. Alors ça change tout. Oui. Maintenant, vous avez des maisons où il y en a une ou deux personnes, c'est tout. La vie a bien changé.
L'église du monastère a été détruite par les protestants en 1585, alors que le village s'était converti en masse au protestantisme. En 1644, c'est le temple de Sainte-Croix qui était démoli par les catholiques. L'église a été restaurée en 1689 et rattachée à la commune de Sainte-Croix à la Révolution, alors que le monastère vendu devenait privé. en 1806, suite au Concordat, elle est coupée en deux. Le chœur pour le culte catholique et la nef pour les protestants, qui n'avaient alors plus de lieu de culte. Elle possède depuis deux clochers.
Église et temple, ça veut dire deux clochers. Celui de gauche, c'est le clocher catholique. Celui de droite, le clocher protestant. Et curieusement, le clocher catholique est un peu plus haut que le clocher protestant. Ça doit dater de l'époque où on a fait la séparation, justement. C'est une époque où le clergé catholique essayait de reprendre un peu la main sur le Diwa, notamment avec la mission du Diwa, la deuxième mission du Diwa. Donc, il fallait marquer un peu... la puissance de l'Église catholique par rapport aux protestants, donc le clocher est un peu plus haut. Alors elle n'est pas toute seule, cette église, c'est pas une église de village, c'est une église qui allait avec le prieuré qui était à côté. Pour la construction, on n'a pas de date. Tout ce qu'on peut estimer, c'est que, étant un prieuré déjà en 1104, l'église a pu être construite dans la deuxième moitié du XIe siècle, c'est-à-dire entre 1050 et 1100. Qui occupe ce prieuré, l'église et prieuré? Eh bien, ce sont des moines, des chanoines réguliers. C'est-à-dire, réguliers, ça veut dire qu'ils suivent la règle monastique, c'est-à-dire qu'ils sont à l'intérieur, ils ne sont pas dans le monde, ils ne sont pas dans la vie quotidienne, ils mènent une vie de prière. Ils suivent la règle de Saint-Augustin. Ils sont peu nombreux, peut-être pour une dizaine, 10-12, c'était un petit prieuré. Alors, c'est quand même un petit prieuré, mais d'autres prieurés dépendent de ce prieuré. Notamment dans la vallée de Quin, Saint-Julien, il y a Sainte-Agathe à côté de Die. Elle a disparu, Sainte-Agathe, c'était à côté de Die. Il y a plus un certain nombre de petits prieurés qui dépendent de Sainte-Croix. Ils n'ont pas beaucoup de revenus, nous sommes quand même dans une région pas très riche sur le plan agricole. Il y a des revenus, bien sûr. Les paysans paient des sommes au prieuré, mais c'est quand même pas un prieuré très riche. Ce qui se passe, c'est que fin du XIIIe, en 1289 exactement, on va adjoindre au prieuré l'hôpital de Saint-Antoine qui se trouve à Ponté. À Ponté, il y avait un hôpital tenu par des frères de l'aumône Saint-Antoine, des Antonins, qui soignait les pauvres, les malades, les indigents, toutes les maladies du Moyen-Âge. Donc on les soignait là-bas, et on va, en 1289, on va réunir les deux. C'est-à-dire qu'un Antonin, un prieur Antonin, va gérer l'ensemble, c'est-à-dire l'église et l'hôpital. Alors, les gens qui viennent ici, ils vont donner un peu d'argent, bien sûr, parce que s'ils sont guéris, s'ils sont contents, ils vont pouvoir verser un peu d'argent. A priori, ils viennent voir Saint-Antoine parce que Saint-Antoine est réputé pour guérir le mal des ardents.
Cet Antoine, c'est un personnage réel, en fait. Hein. C'est le premier des moines, en fait. Le premier qui est vraiment, on l'appelle le père des moines. Il est parti il était égyptien, il vivait en Égypte. Il parlait pas grec, il parlait pas latin. Il parlait copte. Et il a décidé à 20 ans de partir prier tout seul en ermite. Alors celui qui l'a fait vraiment connaître, c'est un évêque d'Alexandrie à l'époque, qui s'appelait Athanase et qui a écrit, qu'il a connu, on pense qu'il l'a connu, mais vraiment à la toute fin de sa vie. Et à la toute fin de sa vie, il a écrit, puis dans les années qui ont suivi, en fait, donc c'est vers 350, cet Athanase a écrit la vie de saint Antoine. Et alors, c'est évidemment, c'est un récit, comme on dit, hagiographique, c'est-à-dire c'est ça en fait tout de suite un saint avec des pouvoirs. Alors, ce qui est le plus célèbre donc d'Antoine raconté par Athanase, c'est ces fameuses tentations, puisque le diable, les démons venaient le harceler sans arrêt, des monstres, des bêtes monstrueuses, tout un tas de choses, des femmes aussi évidemment, et lui résistait grâce à la prière et à cette vie d'ascèse. Et à la fin de sa vie, cet Antoine là, il a donné naissance quand même à un mouvement le mouvement des moines qui sont installés à ce moment-là, de plus en plus nombreux. Il y avait des milliers d'hommes, de femmes aussi, qui ont commencé à faire comme lui, à s'installer dans ces déserts d'Égypte. Ça a commencé à Saint-Antoine-l'Abbaye, parce que à Saint-Antoine-l'Abbaye, ils ont récupéré, alors bon, ça, on ne sait pas, mais ils pensent avoir récupéré les reliques de ce fameux saint Antoine, et ces reliques avaient le pouvoir de guérir, en particulier une maladie très très grave de l'époque, de ce Moyen-Âge là, qui était le mal des Ardents.
Vertige, spasme, convulsion et hallucination. Ce mal ronge les chairs. Les patients sont d'abord enveloppés d'un froid glacial que rien ne peut combattre, puis surviennent des chaleurs intolérables, une sensation de brûlure intérieure, ressentie particulièrement dans les bras et dans les jambes. Cependant qu'au toucher, leurs membres sont glacés. Plus tard, les muscles sont atteints de crampes très douloureuses, pouvant provoquer la mort par asphyxie. Les membres inférieurs et supérieurs se nécrosent, noircissent, se gangrènent et tombent.
Ils ont eu tellement de succès avec ces reliques de saint Antoine, il y a eu tellement de malades qui sont venus, ils ont réussi en plus à en guérir quelques-uns quand même. Et du coup, ça a donné lieu à un nouvel ordre religieux qu'on a appelé l'ordre des Antonins. Et Sainte-Croix est devenue, donc les moines de Sainte-Croix sont devenus des moines de l'ordre des Antonins.
Saint Antoine est souvent représenté avec une canne, dont la forme rappelle la lettre grecque Tau, devenue le symbole de l'ordre antonin. Près de l'entrée du monastère, dans la contre-allée, sur une pierre, mais aussi dans l'enceinte du monastère, vous pourrez voir différentes représentations du Tau qui évoquent la présence des Antonins.
C'est une lettre grecque, c'est le Tau de l'alphabet hébraïque, signe d'élection divine dans la Bible. On le retrouve comme on le pense aussi, enfin on y pense quand on voit saint Antoine. Ça permet de différencier le saint Antoine d'Égypte du saint Antoine de Padoue. En général, il a son tau, enfin sa béquille, sa canne, avec une forme en tau au sommet, si je peux dire. On pense que c'est le symbole de la victoire sur les tentations du démon. La béquille des malades amputés. Il y a sans doute un livre à écrire sur le tau. Nous, pour faire simple, on peut dire que c'est l'insigne de l'ordre. Quoi.
Entrez dans la cour du monastère. On pense que la porte actuelle a été ouverte par la famille Grangier, devenu propriétaire des lieux en 1840, qui avait installé une fabrique de draperie dans une partie du bâtiment.
S'il vous plaît, on vous invite à vous approcher.
L'association Les Amis du Monastère a repris sa gestion en 2011. Elle est devenue en 2015 la société coopérative d'intérêt collectif Nouveau Monastère.
Bon, bienvenue à tous. Merci beaucoup d'être présents aujourd'hui pour un certain nombre d'événements à fêter. Alors, on a une première étape qui est la découverte pour certains et puis un certain accomplissement de tout le travail qui a été mené dans cette intersaison. Et voilà, voici venu le moment de l'inauguration de cet espace qui est largement au-delà de presque des espérances que nous avions, puisque l'idée c'était d'avoir quelque chose à la fois de pratique, utile pour l'accessibilité, mais également intégré à ce bâti ancien. Voilà, et je pense que le pari était réussi. Il est temps pour nous d'ouvrir cette cour pour que tout le monde puisse profiter de ce bel espace. Eh bien, allons-y.
Entrez dans le bâtiment par le couloir des expositions et parcourez-le jusqu'à la terrasse qui donne sur le jardin des moines. Au XVIe siècle, l'ergot de seigle, champignon responsable du mal des ardents, est découvert. L'ordre des Antonins décline alors que la maladie régresse. Le monastère revient à l'ordre de Malte avec l'extinction de l'ordre antonin en 1777. Devenu bien national à la Révolution, il fait l'objet au siècle suivant de pas moins de 7 acquisitions différentes.
Nous, quand on s'est marié, on s'est installé dans le Diouin, en 1977. Et on a très vite connu le monastère, la dernière sœur qui restait, parce qu'il avait été vendu en 1912, enfin cédé pour un euro symbolique à la communauté du Saint-Sacrement, une communauté de religieuses de Lyon. Et elles étaient une douzaine de religieuses, et puis elles faisaient tout un tas d'activités, la classe, des retraites pour une colonie de vacances, etc. quoi. Avec un parc, paraît-il, qui était splendide, entretenu. Puis quand il en est resté plus qu'une, il a bien fallu qu'elle trouve une solution, elle ne pouvait pas s'occuper de tout. Donc elle a laissé, elle s'appelait Mademoiselle Courcel. Mademoiselle, parce qu'elle n'était pas en habit, ces religieuses. Elle n'était pas en habit parce que c'était une congrégation qui a été fondée au moment de la Révolution. Et il ne fallait pas qu'on les reconnaisse par sécurité, quoi. Alors cette Mademoiselle Courcel, elle a laissé pour un euro symbolique aussi, elle a laissé à son frère, qui avait déjà un centre pour handicapés, et il a voulu en faire un deuxième ici. Et le directeur de ce centre pour handicapés a pris le relais en fondant une petite association. Cette petite association, il a appelé le Foyer de Sainte-Croix, parce qu'il voulait continuer. Et il a trouvé l'ADCAVL, l'association de chantier d'animation et vie locale, qui faisait de la réinsertion. Et il a fait un bail de 30 ans avec eux. Ce sont eux qui ont géré le lieu, qui en ont fait un centre d'accueil international. Et puis, je suis entré dans l'association en 1980, je crois. J'ai remplacé l'ancien président en 95, oui. Et on a toujours voulu garder la propriété du lieu pour préserver l'héritage, quoi. On se sent des héritiers et on a deux missions, l'association propriétaire qui s'appelle le monastère de Sainte-Croix maintenant. On a deux missions, c'est de préserver le patrimoine bâti, qui est extraordinaire, tout le monde le reconnaît. Les pierres sont gorgées d'énergies diverses, positives, de prières, les pierres parlent. Et donc on reçoit ça, quand on rentre dans la cour, on reçoit ça, quoi. Même si on n'est pas très sensible, on le ressent. Et puis de l'autre côté, alors il y a ça c'est le côté cour où il y a toutes les animations, et de l'autre côté il y a le côté jardin. Alors côté jardin, c'est le silence, la méditation. Quand on regarde le paysage du côté jardin, le jardin des moines, c'est là qu'ils avaient leur petit lieu ils faisaient un petit potager, là, enfin bon, et puis un petit lieu de méditation. Quand on regarde le paysage, il n'y a pas de pollution, C'est un paysage sans pollution. Il n'y a pas de pylônes, il n'y a pas de hangars, d'usines, il n'y a rien pour gêner la vue et pour perturber la méditation.
C'est le ventre, imaginez que votre ventre c'est le ballon qui gonfle. Et pas les épaules surtout. Faut penser bien que c'est pas les épaules qui montent.
C'est tout ça qui gonfle.
D'accord? C'est vraiment le bas du ventre. Ok. Ouais. Quelqu'un d'autre qui prend le relais?
Il y a une quinzaine d'années avec Alain et Jean-Claude Mingoni. On avait réservé le monastère pour fêter nos anniversaires communs. Donc on a fait une grosse fête pendant plusieurs jours. Et puis on s'était dit, tiens, ce lieu-là, c'est vraiment un lieu qui est sympa pour y vivre, pour faire des choses. Et puis en 2010, j'ai appris que la DCVL a annoncé au propriétaire que le lendemain matin, ils n'avaient plus le droit d'être dans les murs. Ils étaient... plus ou moins sous une forme de redressement administratif, voilà, pour un problème de gestion. Et donc bah, là, il s'est trouvé que le monastère, que les propriétaires se sont retrouvés avec un bâtiment pas en très bon état, avec des groupes qui avaient réservé, des acomptes qui avaient été encaissés, donc une grosse problématique financière. Et vu que moi, dans mon passé, avant d'être dans la Drôme, j'ai géré ce genre de structure, des structures touristiques. Je leur avais dit, je vais essayer de contacter dans mon réseau quelqu'un qui pourrait éventuellement venir voir s'il pouvait reprendre l'activité sous forme associative. Tout en me disant, moi, que c'était sûr que je ne reprendrais jamais un lieu comme ça, vu que je m'en étais fait un peu la promesse, parce que c'est quand même assez énergivore. Ben voilà. Aujourd'hui, on est en 2018 et voilà, j'y suis. Et donc, février, site internet était en place, la page Facebook, l'association montée. Et puis là, on a lancé des chantiers. Moi, j'ai lancé des chantiers participatifs. Les murs étaient fissurés, il y avait de la peinture à refaire, enfin des enduits. La mise aux normes électricité, il n'y avait plus d'eau chaude, c'était vraiment, il n'y avait pas eu de travaux de mise aux normes qui avaient été effectués. Le jardin était dans un état lamentable, il n'était pas entretenu depuis 2-3 ans. Et là, on a fait plusieurs chantiers qui ont réuni plus de 80 personnes. Donc c'est venu d'un peu de partout, des gens qu'on ne connaissait pas, des gens qui avaient eu une histoire avec le lieu, qui étaient venus soit en tant que clients, soit parce qu'ils connaissaient quelqu'un, soit parce qu'ils sont du territoire et puis que les vieilles pierres, c'est quelque chose qui leur parle, soit c'est l'approche botanique qui les intéressait. Et même des entreprises locales qui ont joué le jeu, donc qui sont venues bénévolement donner du temps, donc ça c'était super. Nous on a ouvert les portes tout de suite, c'était une des premières choses, tout le temps ouvert. On était vraiment parti sur une optique d'être un outil de territoire. Après, on a cette programmation, donc ouvrir le lieu à la culture, ça veut dire que permettre à des gens, quand on accueille des stages culturels, artistiques, que ce soit de la peinture, de la danse, du cirque, de la musique, qui viennent travailler ici, comme le Conservatoire de musique de Lyon, par exemple, avec qui on est en convention, ils font leur travail, et nous, on leur demande de faire des restitutions au niveau du public, donc souvent, il y a des trucs un peu off, qui se font, ou donc c'est plus les gens de proximité du village qui en profitent, qui viennent voir des rendus d'exposition, de travail, de stage de peinture. Et puis on essaye de travailler avec eux sur le vivant, le lien au territoire. C'est-à-dire que le conservatoire, par exemple, on a mis en place des projets avec les écoles de la vallée.
Alors vous avez vu, il y a deux fois normaux, et le dernier, il est plus long. On essaye. Encore un coup. Oh, bon chaud là. C'est vrai. Est-ce que vous vous souvenez du carré?
Oui.
Oui.
Ça, c'est quoi?
La gauche.
La gauche, elle est où la gauche?
La gauche?
Ouais, exactement.
La gauche.
D'accord? Alors, je vais compter 3. Je vais compter 3 dans le vide et après les 3, on part, ok? On est parti? Concentré. 1, 2, 3.
On a beaucoup d'interrogations sur la façon dont était organisé le lieu auparavant, puisque dans un des plans antérieurs qu'on a par les archives qui sont disponibles à l'Ordre de Malte, on a un plan de 1623, je crois. On s'interroge sur le fait que préalablement, il y avait peut-être qu'un seul un bâtiment, l'église, et un bâtiment perpendiculaire à l'église, et peut-être qu'en face des granges, puisqu'il fallait quand même que les moines subsistent, hein, il fallait qu'on puisse stocker des céréales, qu'on puisse il y avait des besoins de dépendance, et peut-être rien côté sud, là où il y a actuellement on voit les contreforts. Hypothèse qu'a émis aussi Michel Bois, l'archéologue, c'est qu'il se peut que ces contreforts aient été établis après le tremblement de terre qui a donné naissance au CLAPS, pour consolider le bâtiment.
Depuis la terrasse, entrez à nouveau dans le bâtiment. Sur votre droite se trouve la salle chapelle qui a servi un temps à l'école des sœurs. Marcel Arbeau l'a fréquentée jusqu'en 1941. Date à laquelle elle a rejoint l'école communale.
L'école était la pièce qui est complètement au fond, là-bas. Il faut rentrer dans un couloir, et puis les WC derrière. Là. Et puis on en avait fait une deuxième qui était à l'étage en dessus, mais du côté de la salle des fêtes. On nous avait coupé en deux. Et oui, tout ça, c'est bien vieux. D'abord, au début, j'y suis été couramment parce que j'avais été malade. On m'avait laissé ici avec la grand-mère, jusqu'à sa mort. Ça, je m'en souviens comme si c'était ce matin. Et puis après, ben, je suis montée à Palerme avec mes parents et on allait à l'école. Donc. Pas tous les jours, parce qu'il fallait garder les brebis. Alors, et puis soigner les petits frères, petites sœurs. Et on allait quand même de temps en temps à l'école. Alors, on a, disons, pas quitté le cours élémentaire. Ça serait été trop pour nous. Eh bien oui, c'était comme ça. J'étais l'aînée des filles. Je me trouvais la quatrième. Et il y a trois garçons avant moi. Tout ça, c'est très vieux. Mmh. Ça remonte à presque 80 ans. Eh oui. Où est ce temps-là? Ils avaient un jardinier, il y avait un âne, bon, je me rappelle bien, il travaillait les jardins. Monsieur Brun, on l'appelait. C'était le papa du curé Brun. qui est mort il n'y a pas tellement longtemps. Il travaillait le grand jardin, parce que c'est grand. Hein.
Vous mettiez combien de temps pour remonter?
Ah ben, on nous donnait 2 heures pour entrer. Bon, on ne mettait quand même pas 2 heures, mais enfin, du village là-haut, il y a de quoi. Oui, oui. Même quand on prenait les sentiers de raccourci, on avait de quoi nous occuper. Mmh. Et puis en arrivant, mais il fallait vite goûter, aider la maman, et aller. C'est qu'il y avait les bêtes à pâturer. Hein. Les lapins, les poules, les cochons. Traire les chèvres, les vaches. Enfin, les vaches, je n'avais jamais traité, c'est surtout les chèvres. Enfin bon, il fallait le faire. Hein. On passait une bonne journée à l'école, puis après, il fallait monter là-haut. Les voitures étaient rares. Il y en avait quoi, 3-4 dans Sainte-Croix? À la cure au couvent, chez Grangeron et le pasteur. C'est tout. Là, c'était comme ça. Eh oui! Où est ce temps-là?
Une traversée sonore proposée par l'association La Bande Sonore et soutenue par le conseil départemental de la Drôme, avec, par ordre d'apparition, Solange Grangeron, Frédéric Rentière et ses élèves du cours de chant médiéval sacré, Charline Lefebvre, Gérard Lanéry, Martine Taille, Caroline Ligouy, Michel Leclerc, Frédéric Sauvage, Marcel Arbaud, les élèves professeurs du Conservatoire de musique de Lyon, les enfants de l'école de Sainte-Croix, et la musique de Jean Poinsignon, jouée dans les jardins du monastère pour une sieste musicale, le 29 septembre 2018.